dimension économique, c'est la richesse de la commune.
Ensemble sur Calade. Le prof Patrick.
Oui, il est avec nous en studio, c'est le prof Patrick, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Mathieu, on va reparler de la voiture électrique.
Ah.
J'en ai déjà parlé une fois, mais ça fait rien, on va en reparler. Bon, tu le sais Mathieu, maintenant c'est certain, on fonce vers une société où toutes les voitures seront électriques.
Ouais.
Ouais. D'ici 2035, donc demain quoi, en quelque sorte, on en aura fini, aucune voiture thermique ne sera plus fabriquée.
D'accord.
En 2035, il n'y aura que de l'électrique. Nous venons d'assister, à l'occasion du récent salon d'automobile à Paris, au grand départ de cette nouvelle bataille. Alors je parle de bataille parce que c'est l'impression globale que ça donne. Hein. On voit des armées de combattants, les constructeurs automobiles, qui partent au combat à la fleur au fusil, avec plus ou moins d'enthousiasme. Hein. mais ce qu'ils savent tous, c'est qu'ils n'ont pas le choix.
Ouais.
Que c'est le chemin qu'ils sont obligés de suivre. Ben ouais, parce que ce chemin, il a été imposé par la puissance publique. À commencer par l'Union européenne qui a fixé cette interdiction de produire des voitures thermiques à partir de 2035 et qui, entre-temps, a fixé des objectifs d'émissions de gaz à effet de serre si bas que les constructeurs n'ont pas eu d'autre choix à partir de janvier 2020 que de développer massivement une nouvelle gamme de voitures électriques. Bon, alors, on connaît les raisons, hein, elles sont tout à fait nobles. Hein, il faut à tout prix maîtriser le réchauffement climatique et on comprend parfaitement la motivation de départ. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression que ce revirement stratégique majeur a vraiment été pensé sous tous ses aspects. C'est ce que je vais développer dans ma chronique aujourd'hui. En fait, nous semblons bien partis avec la voiture électrique pour foncer dans les mêmes impasses que celles où notre système industriel nous a menés jusqu'à présent. On y va ?
Allons-y. C'est que des bonnes nouvelles, j'ai l'impression, aujourd'hui.
Comme d'habitude, hein, je suis un oiseau de mauvais augure, mais toujours en rigolant.
Très bien.
Alors, on sait déjà, Mathieu, hein, que la voiture électrique n'a rien d'une solution miracle. On avait déjà, d'ailleurs, abordé la question dans une chronique du 7 juillet 2021 que je mettrai en lien. Comme ça, ceux qui veulent l'écouter préalablement le pourront. Ça nous avait permis, par exemple, de comprendre que si on voulait obtenir des gains nets réellement positif pour la planète, il aurait fallu que l'industrie automobile nous propose quasiment exclusivement des véhicules électriques petits, petites, voire très petites tailles, et surtout pas des tanks genre SUV, Tesla, etc. Bon, bah, c'est déjà mal parti, hein, vous pouvez le constater tous les jours, chers auditeurs, en regardant autour de vous dans les rues. Mais bon, c'est pas ce que j'ai en tête quand je me demande si ce changement majeur a été pensé sérieusement. Tu sais Mathieu, on en a largement parlé, que notre système capitaliste, industriel, s'est d'abord développé grâce à l'exploitation massive de sources d'énergie fossiles, pétrole, charbon, gaz. Et que, outre le problème de réchauffement climatique que ça pose, cette surexploitation est en train, à l'échelle de 200-300 ans maximum, de vider les réserves de notre planète de matériaux que la planète a mis des dizaines de millions d'années à constituer. D'accord ? On a donc un problème, on le sait. Eh bien, figure-toi, Mathieu, que notre système capitaliste industriel ne s'est pas développé que grâce aux énergies fossiles, mais aussi grâce aux ressources minières. Et ça, on le sait moins. Et que notre rythme de consommation de ces ressources minières est également exponentiel et vide également rapidement les réserves mondiales. Je vais mettre dans le podcast deux graphiques, je vais te faire mettre parce que tu es bon comme le pain Mathieu, deux graphiques de consommation sur plusieurs décennies de fer, d'acier, d'argent et de cuivre pour illustrer ça. Et vous verrez que les courbes sont exponentielles. Et oui, dans tous les secteurs industriels, on utilise massivement des minerais. On en trouve partout, même dans les vêtements, même dans la nourriture, même dans les biens d'équipement, que ce soit dans les process de production ou dans le produit fini et le plus souvent dans les deux. Sauf que depuis le début du 21e siècle, on utilise un nombre de plus en plus important de matériaux différents, de métaux différents, excusez-moi. Exemple, un smartphone contient entre 50 et 60 matériaux issus de métaux différents. Une voiture électrique en utilise 75 sur un total de 85 éléments chimiques naturels connus à ce jour. Bref, Mathieu, on racle tous les tiroirs. Et quand on racle les tiroirs, ça fait des dégâts. J'explique. Prenons l'exemple du cuivre. Dans une mine de cuivre, on ne conserve que 2% jusqu'à 0,3%, ça dépend de la richesse de la mine, de ce qu'on a extrait. Le reste, 98 à 99,7%, on le jette à la poubelle, Mathieu. C'est des déchets. Et n'espère pas qu'on parle de recyclage. Non, 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 c'est des déchets finaux, on ne sait pas qu'en foutre.
D'accord.
Alors tu crois peut-être que c'est une exception le cuivre. C'est vrai que dans notre société industrielle, on a commencé en exploitant des métaux plus rentables. Je peux parler du fer, par exemple, où l'on conserve, in fine, entre un tiers et les deux tiers de ce qu'on a extrait.
C'est pas trop mal.
Ouais. L'aluminium, c'est entre 25 et 30% qu'on conserve. Bon, tu notes quand même qu'on jette entre 50 et 70% de ce qu'on a extrait. Le problème, c'est que pour les métaux nécessaires dans notre économie capitaliste du XXIe siècle, c'est plus la même chanson. On a parlé du cuivre, alors je vais vous parler du nickel. On conserve entre 1 et 3% de ce qu'on a extrait. Le cobalt, on conserve entre 0,5 et 2,5% de ce qu'on a extrait. L'uranium, on conserve entre 0,1 et 0,3% de ce qu'on a extrait. Le lithium, on conserve entre 0,05 et 0,15% de ce qu'on a extrait. Le platine reste assis, on conserve entre 0,0003 et 0,0015% de ce qu'on a extrait.
C'est si utile que ça, le platine ?
Ouais. Et l'or, c'est le champion, on conserve 1 gramme par tonne.
D'accord.
Extraite. Ouais. On extrait donc des quantités phénoménales de minerais pour une partie utile extrêmement faible quantitativement. Mais c'est pas tout. Ce processus requiert une immense consommation d'énergie et d'eau. J'en avais déjà parlé dans ma chronique du 7 juillet 2021, que vous pourrez réécouter, chers auditeurs. Un petit exemple en passant, une mine d'or standard, lambda, moyenne, consomme autant d'eau et d'électricité que 80 000 habitants français. Alors, revoyez ma chronique, réécoutez ma chronique, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus. J'avais pas mal développé ça dans cette première chronique. Faisons de notre côté ce que j'appellerais un point d'étape. Où est-ce qu'on en est dans l'exploitation des métaux aujourd'hui, en 2022? Eh bien, trois enseignements peuvent être tirés. Premier enseignement, les teneurs en minerais exploités diminuent rapidement. On a de moins en moins de minerais contenus dans les mines. Deuxième enseignement, les gisements facilement exploitables sont de moins en moins nombreux. Troisième enseignement, les minerais exploités sont de plus en plus complexes et réfractaires. Réfractaires, ça veut dire qu'ils sont de moins en moins sensibles aux produits chimiques et aux acides qu'on utilise pour les récupérer. Exemple, depuis des décennies, on utilise le cyanure pour exploiter de l'or, pour retirer de l'or, et avec des conséquences écologiques dramatiques. Eh ben, l'or ne réagit plus au cyanure dans les mines qu'on exploite aujourd'hui, parce qu'il est trop incrusté.
D'accord.
Donc plus le temps passe, plus c'est compliqué d'exploiter les métaux. Résultat, l'augmentation des impacts environnementaux va être massive. Et on est en train d'atteindre les limites physiques des possibilités d'exploitation des minerais. Au moment même où l'augmentation des besoins en métaux s'annonce gigantesque. Un chiffre, l'Agence internationale de l'énergie estime que la demande globale de métaux pour le secteur énergétique va être multipliée par 4, au moins, d'ici à 2040. Concernant la voiture électrique uniquement, eh bien, la demande en lithium pour les voitures électriques va être multipliée par 42, la demande en cobalt par 21 et la demande en nickel par 19. Et ce n'est pas des petites quantités, hein, Mathieu. En moyenne, une batterie de voiture électrique contient 50 kg de nickel, 7 kg de cobalt et 45 kg de carbonate de lithium. D'où la question incontournable qui arrive maintenant, est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde ?
Ouais.
Eh bien, c'est une bonne question, je te remercie de me la reposer. Parce que la réponse, on ne la sait pas à 100%, on n'est pas sûr, mais bon, il y a l'Institut français du pétrole, Pétrole Énergie Nouvelle, qui est un organisme public qui étudie ces questions, eh bien, donne une réponse globalement négative, une réponse assez inquiétante. Non, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Cette étude de l'IFP Énergie Nouvelle indique qu'entre 2020 et 2050, le monde va consommer 30% des réserves mondiales de lithium, 60% des réserves mondiales de nickel, 80% des réserves mondiales de cobalt et entre 60 et 90% des réserves mondiales de cuivre. Tout ça en l'espace de 30 ans. Ça va être torché en 30 ans.
Après, il n'y en a plus.
Après, il restera le reste, ouais, c'est-à-dire pas grand-chose.
Ouais,
et si vous pensez que le recyclage nous sauvera, eh bien non, ne rêvez pas. Il ne permettra pas de couvrir tous les besoins. On estime qu'en 2040, on réussira à recycler 30% du parc de batteries. Voilà. Donc 110%, on ne saura pas.
Et c'est des minéraux, c'est pas des champignons qui poussent tout seuls, quoi.
Exactement, ça met quelques dizaines de milliers ou centaines de millions d'années plutôt à apparaître, à se constituer. Conclusion, Mathieu, notre système économique capitaliste ressemble fort à un poulet sans tête.
Ah oui.
Il court, ça c'est sûr, hein, mais il court sans réfléchir, sans anticiper en quelque sorte. Et il court en faisant bien attention à regarder ailleurs quand des questions gênantes se posent. Donc, une petite métaphore sur les séries télé. Si vous avez aimé l'épisode sur la fin du pétrole, vous adorerez le prochain épisode sur la fin des métaux. Et vous adorerez son spin-off sur les destructions environnementales gigantesques que l'exploitation des métaux provoque et qui vont s'amplifier dans les décennies à venir. J'en ai terminé, Mathieu.
Merci beaucoup, prof Patrick.
On va tous se jeter dans la Saône.
Ensemble sur Calade.